C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
C'est une routine chez les Français et les Françaises. Tous les 5 ans a lieu l'élection du président de la République. Une élection particulière pour le caractère très magazine people qu'elle revêt parfois. Une élection singulière également par son mode de scrutin, le suffrage universel. Alors à quand remonte la première élection au suffrage universel en France ? Eh bien, c'est assez récent sur la flèche de l'histoire, l'histoire avec un grand I. C'est les 10 et 11 décembre 1848 que les Français élisent au suffrage universel masculin un président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Alors pour revenir aujourd'hui sur ce premier suffrage universel de l'histoire de France, je suis entouré de nos historiens préférés. Bonjour Alexandre Roblin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Florian Mouclade.
Eh, hey, salut.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Première question pour vous messieurs, est-ce qu'on peut poser le cadre historique ? Comment va la France en 1848 ?
C'est un pays prospère. C'est un pays prospère, mais avec des richesses extrêmement mal distribuées. Il y a 3 familles qui possèdent, mettons, j'ai plus les chiffres exacts, peut-être arrêtez-moi si je me trompe, 82%, disons 80% de toutes les richesses, qui à l'époque, donc c'est surtout des champs. Il y a 2-3 forêts.
Quelques châteaux.
Ouais, quelques châteaux. Et donc, un pays prospère, mais avec quand même énormément de miséreux, de crève la faim.
Moi, on sort, pour remettre aussi le contexte historique, on sort de toute la campagne de Russie, du grand empire de Napoléon, et là, ventre mou pour la France. Gros ventre mou. On ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas vraiment ce que va devenir la France. On est revenu au Royaume de France, aux frontières qu'on connaissait pendant le Royaume de France. Et c'est là qu'on décide, un peu par dépit, de voter pour...
d'organiser une élection déjà.
D'organiser une élection et de trouver qui sera le nouveau dirigeant de la France, parce que personne ne veut vraiment l'être. En fait.
Non, voilà. C'est ça, c'est... On est dans une période molle. En fait, tout le monde est encore dans l'esprit. Tout le monde vit dans la nostalgie de la Révolution française de 1789.
Ouais, c'est ça.
C'était le grand moment de la France. C'était super. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu la prise de la Bastille à cette époque. Et là, 1848,
bon.
50 ans après, on retombe un peu. Les gens n'ont pas vraiment envie de gouverner. Les gens ont envie que ça change parce qu'effectivement, 82% de la richesse est détenue par 3 familles. Mais personne n'a vraiment envie de le faire. Et Louis-Napoléon Bonaparte décide de se présenter à l'élection qui est organisée cette année-là.
Mais presque...
Par
dépit aussi, parce qu'il y a quand même une espèce d'ambiance de flemme un peu étrange.
On va le chercher un peu.
Oui.
C'est Louis-Philippe qui va lui demander.
Ouais.
Alors il faut savoir que beaucoup, déjà, c'était à la mode de tout le monde mettait Louis avant son prénom à l'époque. Ça, c'était grande mode à l'époque.
Mais oui, mais ça commençait déjà, c'est signe que le royaume Madeleine.
C'est du déclin, hein. C'est un manque d'imagination.
Oui, au bout d'un moment, ça faisait bien 40 ans que tout le monde commençait à faire ça. Et bon, enfin bref, excusez-moi, je vous ai coupé.
Non, mais vous avez
bien raison. Des lourdeurs administratives folles à cause de cette histoire de Louis. On doit rajouter Louis avant chaque prénom, chaque nom.
Ouais, voilà, c'est très long à écrire.
Et Louis d'or.
Faut rajouter des cases sur tous les formulaires administratifs parce que plus rien ne rentre. Enfin,
Donc Louis-Philippe va toquer à la porte de Louis-Napoléon Bonaparte, qui à l'époque est en Corse à Bonifacio, joue aux cartes toute la journée avec Louis-Martin, son cousin. Et il lui dit, bon écoute, Napoléon, Louis-Napoléon, c'est le moment, il faut qu'on fasse quelque chose. S'il te plaît, monte à Paris. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il lui demande 3 fois s'il te plaît. Prends la tête de la France.
Donc l'objectif, voilà, c'est de trouver quelqu'un qui pourrait faire l'affaire, qui est prêt à se sacrifier pour redonner un dynamisme qui est perdu, si je comprends bien.
Oui, et puis on cherche le dynamisme d'antan. On repart chercher un Bonaparte.
Mais c'est pour ça qu'on lui demande, c'est pour ça qu'on cherche un Napoléon Bonaparte.
C'est pour son nom.
Évidemment.
Voilà, on veut un deuxième Napoléon Bonaparte qui prenne les rênes du royaume. Excusez-moi. Pardon, mais bon. C'est un peu ce que Louis-Napoléon...
Et puis on cherche quelqu'un qui a du panache. On cherche qui, bon, quand on le trouve à Bonifacio à jouer aux cartes toute la journée,
ouais,
il n'est pas, il est côté, pas au meilleur de sa forme, oui, parce que bon, voilà, mal rasé.
Non, mais il avait cette réputation quand même.
Mais oui, c'est ouais, qu'il oui. était bel homme, il était charmeur, il était vif.
C'est un homme qui aimait bien. C'était un esthète. Il aimait bien les musées, l'art. Il collectionnait beaucoup de tableaux de l'époque où il habitait à Paris, parce qu'il a longtemps habité à Paris avant de retourner vivre en Corse. Il avait quelques très belles pièces. Il s'habillait très bien avec des plumes, ce qui était très à la mode à l'époque, très apprécié. Des plumes de coq. Donc voilà.
Son surnom d'ailleurs.
Oui, bah oui.
Le coq.
Et tout le monde et qui donnera d'ailleurs cet animal en emblème à la France pendant son mandat. Donc c'était voilà, il était connu pour ça et c'était l'image qu'il renvoyait.
Très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit tour, ce sera rapide, des autres prétendants à ce poste qui, en face de lui, vient aussi candidater.
On a Louis Bernaville, une espèce, on peut le dire, un original.
Vous êtes gentil. Hein.
Donc c'est un paysan.
Il vient du Poitou.
Un paysan du Poitou, donc qui... sa réflexion était très simple. Si je peux mener un troupeau de 150 brebis, je peux mener la France.
C'était son slogan.
Mmh. L'histoire lui donnera tort, malheureusement pour lui.
Bah alors, on ne sait pas. Il a jamais été président, mais bon.
Non, mais en tout cas, on ne lui donnera pas le. Et puis il a été piétiné. Cet homme est mort piétiné par 150 brebis.
C'est vrai. Vous me le rappelez, mais il a complètement raté son.
Non. Oui.
En fait, c'est quelqu'un qui n'est même pas allé au bout de la campagne présidentielle.
Il est mort pendant la campagne, piétiné par son troupeau de brebis, la tête ailleurs.
Comme quoi, il ne pouvait pas mener un...
Non.
Et donc, Louis Bernaville et Louis Aurel. Mais c'était un peu ridicule parce que c'était un Espagnol qui s'appelait Aurel et qui avait mis Louis devant son nom et qui s'était dit peut-être que je peux diriger la France, sur un malentendu. Mais alors c'était une catastrophe, il ne parlait pas la langue, certainement des bonnes intentions, mais personne ne le comprenait. Donc il n'a pas duré très longtemps dans cette campagne.
Puis il parlait fort. Il n'était pas, c'est pas quelqu'un d'agréable quoi. Il était là, dans les pièces, il parlait fort, il faisait des grands gestes, il transpirait beaucoup. Et des blagues parfois... terrible quoi, sur les femmes, les étrangers, encore une fois un original.
Il était taviné la plupart du temps.
Et alors, donc le troisième, Louis Tartignan de Bernicillon, un noble
qui essaie de remettre en place la royauté. Bon, ça passe très mal. Hein.
Bah, et puis on voit à travers le guide déguisement, quoi. C'est un noble qui se prétend démocrate, qui se prétend humaniste, qui se prétend républicain. Il portait une couronne à chacun de ses discours. C'était grossier comme déguisement.
Très bien. Donc là, on a fait le tour. Il y avait quatre.
Il en reste un.
Ah, il en reste un, pardon.
Louis-Étienne, un cochon.
Ah oui, Louis-Étienne. Eh mais. C'est drôle parce que.
On a tendance à oublier Louis-Étienne.
Mais on a tendance à oublier. Alors, peut-être je parle que pour moi, mais beaucoup de détails de cette élection qui pourtant. Rocambolesque à beaucoup d'aspects.
Original. Une première élection au suffrage universel français.
Et c'est fou qu'on oublie Louis Étienne, parce qu'il a quand même fini deuxième. Derrière Louis-Napoléon Bonaparte. Hein, avec quand même 6% des voix. C'est dire l'état de la France à cette époque.
Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs et auditrices comment s'est passée la campagne, justement? Parce que c'est la première campagne. Pour une présidence de la République au suffrage universel, donc c'est quand même pas anodin. Chaque candidat a un peu découvert ce que ça veut dire de faire campagne aussi pour ce type d'élection.
Deux règles établies. La première étant, il vous faut un slogan. Donc chaque candidat doit trouver un slogan. C'est plus ou moins compliqué pour certains candidats. Je pense notamment à Louis...
Louis Aurel.
Louis Aurel qu'on ne comprend pas très bien.
Enculado, il criait.
Il était super lourd. Non, ça c'est...
Je trouvais... Enfin, à titre personnel, moi je... Gros personnage.
Tous les écrits qu'on en a de lui sont... Le dépeigne comme un personnage détestable, et donc forcément...
Qui respirait fort. Des grosses veines.
Donc un slogan et il faut trouver un tableau de campagne sur lequel voilà donc une affiche mais un tableau quelque chose de peint et de repeignable assez facilement pour qu'on puisse l'envoyer qu'on le distribuer dans, le, dans, dans, dans en France voilà donc où on se met en scène voilà et quelque chose qui représente notre l'idée qu'on se fait de soi au pouvoir.
Napoléon ne s'est pas foulé, hein. Enfin Louis-Napoléon ne s'est pas foulé, lui il avait qu'à moitié envie d'y aller, Louis-Philippe l'a un peu poussé quand même, et donc son tableau c'était Louis qui fait un V, enfin sa personne qui fait un V avec les doigts, avec l'air un peu blasé, donc bon, rien de fanfaron, mais rien de trop extravagant non plus pour le peuple, on comprend le message. Bon le slogan par contre, il aurait pu faire mieux.
Ce slogan qui était Napoléon Bonaparte, le deuxième en mieux.
C'était assez prétentieux au final.
Très prétentieux, bah un petit peu.
Il l'a changé après pour vous avez aimé le premier, vous aimerez sûrement le deuxième.
Mmh. Il l'a changé une autre fois encore, non?
Une troisième fois, oui. Oui. Il l'a changé plusieurs fois.
Même. Il a mis.
On va quand même pas s'arrêter au premier.
Non. Voter pour le deuxième.
Il a dit aussi, plus tard, ça celui-là il est resté peu longtemps, mais quelques semaines plus tard, c'était...
Il cherchait.
Premier, ok. Deuxième, ah, mieux.
Ah, et oui, donc, alors, c'est à l'occasion de son meeting à l'Accor Hotel Arena qu'il avait changé, donc, une autre fois, je sais pas si c'est la dernière, mais j'ai l'impression. Votez pour moi.
Qui était finalement le meilleur des slogans. Effectivement, je pense que c'était le dernier, parce que c'était celui qui était écrit sur les bulletins de vote.
Oui, tout
on
à
écrivait
fait.
Le dicton à l'époque, enfin, le... Oui.
Et c'était le V qu'il faisait avec les doigts, qui était le V du
le v de voter pour moi,
après, ouais. Qui était repris, effectivement.
Voilà, et puis, bah, effectivement, comme l'a dit Alexandre, les autres candidats n'étaient pas sérieux et donc forcément pas très mémorables dans leur représentation.
Certains sont même morts, pour dire que...
Louis Aurel avait dessiné une maison avec sa famille, avec des personnages bâtons, un soleil et des oiseaux, donc un dessin un peu enfantin, voilà, qui...
Qui tranchait quand même avec le personnage. Qui tranchait avec le personnage, mais qui était sûrement un bon coup de com' pour essayer de le rapprocher des gens qui pouvaient le trouver vulgaire. On peut lui reconnaître ça.
Non, mais c'était d'ailleurs
un stratège sur la fin.
Étonnamment, c'était le premier candidat auprès des enfants.
Qui avait le droit de vote à l'époque, on le rappelle.
C'est pour ça qu'on
mais que les garçons.
C'est pour ça que le droit de vote après a été qu'on a instauré cette règle de majorité et que les moins de 18 ans ne pouvaient plus voter.
Il dit que c'était pas sérieux.
Alors, avant de détailler le jour de l'élection en particulier, on fait une petite pause musicale et on revient juste après.
Yeah.
Et nous revoilà dans l'histoire avec un grand. C'était Arcadia avec Election Day. Je vous invite à aller regarder le clip qui vaut le détour. Election Day qui est justement le moment de l'histoire qu'on veut attaquer maintenant avec notre équipe d'historiens.
Oui, bien sûr. Donc le 10 et le 11 décembre 1848, hein, le jour de l'élection, du vote et du dépouillement. Le vote se fait de manière plutôt classique. La seule différence qu'il y a par rapport à aujourd'hui, c'est que ça met deux jours, effectivement, le temps de rassembler tous les votes parmi...
toute la vie et toute le vote de la France.
Voilà, tout l'ensemble des votants en France. On n'avait pas les mêmes moyens de transport qu'aujourd'hui, donc effectivement, ça met longtemps. Le dépouillement donc, se fait le 11 décembre au soir, sur les coups de 20h. Ça, on l'a gardé. Et effectivement, on a un résultat qui tranche, hein, avec 72% des voix pour Louis-Napoléon Bonaparte.
Élu au premier tour.
Élu au premier tour. De toute façon, on n'avait pas prévu de deuxième.
Non. Bah,
c'était quelque chose qui n'a pas été prévu.
Et ça, c'était un peu officieux. On l'a appris après, parce que les gens en charge du vote se sont dit, vu les candidats qu'on a, c'est même pas la peine de faire un deuxième tour. Ils n'ont rien prévu et ils y sont allés au culot. Quoi. Si ça passait pas là, s'il y avait un 50-50 entre Louis-Étienne et Louis-Napoléon Bonaparte, ça allait être un joyeux bazar. Donc heureusement qu'on n'a pas eu ce scénario. Peu de candidats font le déplacement en réalité. Hein. Bon, alors Louis Barnaville est décédé entre-temps, donc forcément il n'est pas là. Louis Aurel est venu.
Aurel
est très bruyant. Il importune tous les.
Il gueule.
Et Louis Étienne est là aussi. Ce sont les trois seuls d'ailleurs, je crois.
Oui, tout à fait. Notre Louis.
Louis Trintignant de Barnaville.
Voilà, qui est fan de monarchie et se cache et décide de ne pas faire le déplacement. Mm. Louis Étienne qui prend quand même 20% des voix.
Oui.
20% des voix. 1% des voix pour Louis.
Louis Aurel.
Louis Aurel. Et le reste, quasiment l'entièreté, pour notre cher.
Louis-Napoléon Bonaparte.
Bon, bah, un scrutin sans surprise, somme toute. Hein, les gens voyant le nom de Napoléon sur un papier et voyant écrit voter pour moi n'ont pas réfléchi beaucoup plus loin. Et voilà. Bon, alors c'est le lendemain qui est intéressant, le jour de l'investiture de Louis-Napoléon Bonaparte comme président, puisque il ne s'est pas réveillé.
Oui.
Il était censé se présenter à 10h au palais de l'Élysée. Il n'est jamais venu. Il avait probablement fait un peu la fête la veille.
Mais certains disent qu'il avait fait la fête avec Louis Aurel.
Oui, bon, alors ça expliquerait beaucoup de choses.
Oui. Bon, après, de toute façon, on n'est pas là pour faire du people.
Et on n'est pas passé loin d'une drôle d'histoire, si je peux me permettre, puisque le Porcher, propriétaire de Louis Étienne, revendique le vote.
Lui est présent à l'Élysée au cas où ce scénario se produirait. Il est venu devant le palais de l'Élysée pour faire investiturer
son cochon.
Son cochon. Bon, ça n'est pas passé, mais à quelques heures près, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver.
Oui, c'est ça, parce qu'il y avait grosso modo 24 heures limite pour voir Louis-Napoléon Bonaparte débarquer et...
Tout à fait.
Je veux dire, valider, on va dire, que oui, il voulait bien être président, et sinon ça aurait été...
ça aurait été Louis-Étienne.
Louis-Étienne, le
il
cochon.
Il s'est présenté... Le rendez-vous était à 10h le 12 décembre. Louis-Napoléon Bonaparte s'est présenté à 8h le 13 décembre. Donc le lendemain, il restait que 2h, sans quoi il n'aurait pas été président. Bon, alors il arrive débraillé... Encore un peu vif de la veille, et il prononce son fameux discours, le discours du 13 décembre, qui restera bien sûr un discours très connu par sa médiocrité, puisque bon, Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas envie d'être là. C'était sa seule qualité, la seule raison pour laquelle Louis-Philippe est venu le chercher, c'est parce que on le remarquait, il s'habillait bien, mais à part ça, il avait aucune qualité qui ferait de lui un bon leader.
Alors ce discours, on en a une trace, hein. Il est resté dans l'histoire, les gens l'ont noté, et on en a fait des films, donc je vous propose qu'on l'écoute tout de suite.
Peuple de France, vous êtes réunis pour écouter le discours présidentiel d'investiture de Louis-Napoléon... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire sortir Louis Aurel de la salle, s'il vous plaît ? Vous êtes réunis pour le discours d'investiture de Louis-Napoléon Bonaparte.
Bonjour. Ils ont voté pour moi. Alors,
parlez dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, je parle dans le micro, là. Je suis bien, là, je suis dans le micro.
C'est parfait.
Si vous faites un signe, si c'est bon.
C'est parfait.
Cool. Super. Alors. Pardon. Alors, je vais pas vous cacher que moi... j'étais pas là pour faire ça à la base. Alors, on va pas. Attendez pas non plus qu'il y ait des trucs incroyables qui se passent. Hein. On va aller. Ça va pas changer non plus.
On a une question à gauche.
Ça va pas changer non plus des masses. Oui. Ouais, à gauche, ouais.
J'ai une question, monsieur Napoléon Bonaparte. La France va mal, l'état des finances est au plus bas. Que comptez-vous faire pour financer la santé publique? Quelles sont vos mesures concrètement?
La santé publique? On va distribuer des paquets de mouchoirs.
Ok, on a une autre question là-bas, au fond à droite, monsieur, là-bas avec les...
Oui, bonjour, Stéphanois Bornoin pour le petit Marseillais. Dites-moi, que comptez-vous faire concernant la chasse? Car la chasse est une activité qui tue les animaux, et à Marseille, nous adorons les animaux, donc voilà.
Le petit Marseillais, vous faites du savon, vous, non?
Oui.
Ok. Bon, alors, donc j'en étais à dire, on a du pain sur la planche, mais on va pas non plus se y aller trop vite, parce que faut pas, on n'est pas là non plus pour travailler comme des cons, hein. On a un beau pays quand même, il est beau notre pays. Il est beau. Bon, voilà, on a un beau pays. On va en profiter quand même. On va aller à la plage. On va faire une charrette à la fin. On va aller à la plage tous là.
Oui.
J'ai une super plage.
Louis.
Bonifacio. Ouais.
Le micro est éteint. Les gens sont sortis.
Arrêtez. C'est vrai. Mais pourquoi j'ai vous. Ah ouais. Ah d'accord. Bon. Donc je suis président là.
Oui. C'est ça.
Eh ben, ça va être du travail.
Ça va être du travail, effectivement. Hein. Le film se conclut d'ailleurs là-dessus. On se rend compte que ça ne va pas du tout.
Mais non. Le film La France, il y a du boulot le montre bien. La France est dans un état pas possible. Louis-Napoléon Bonaparte n'est pas du tout adapté pour présider. Et les années qui suivirent furent désastreuses.
Tout à fait. Déjà, Napoléon choisit... Louis Napoléon choisit de partir en guerre contre l'Espagne parce que son bon ami qui s'était lié d'amitié Louis Aurel l'aurait battu à une partie de poker et donc il décide de déclarer la guerre à l'Espagne du jour au lendemain, mais personne n'est au courant.
Il ne fait pas de déclaration officielle.
Non, pas de déclaration officielle. Il part juste en Espagne
avec une poignée de mercenaires.
Voilà, c'est ça.
Ils se font complètement rétamer.
Tout à fait.
C'est une défaite cuisante qu'on peut voir d'ailleurs sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce qu'ils prennent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle par tapis. Bon. Encore une fois, un choix douteux.
Si vous allez à Saint-Jacques-de-Compostelle, près de la petite auberge du point zéro d'où commence le pèlerinage, ils ont planté un panneau où est écrit « Ici démarre la fameuse guerre d'Espagne, 1851 ».
Elle termine très vite.
Elle termine très vite, complètement négligeable dans l'histoire.
Et bon alors, ce qu'on peut reconnaître quand même à Louis-Napoléon Bonaparte, c'est qu'il tient ses promesses de campagne, enfin les promesses de son discours en tout cas, puisqu'il fait distribuer à chaque habitant français 3 paquets de mouchoirs. Donc, bon, c'est assez négligeable d'un point de vue de politique de santé publique, mais les gens lui reconnaissent ça. Les gens lui reconnaissent une honnêteté, et le discours du 13 décembre, aussi mauvais soit-il, montre la transparence de l'homme et le fait qu'il est très en accord avec ses principes et avec la vérité qu'il prononce.
Et peut-être un peu trop, parce qu'il fait aussi démanteler le journal Le Petit Marseillais, simplement parce qu'il n'avait pas compris la question de ce journaliste.
Et il ne restera... Le Petit Marseillais avait 2 activités, une activité de journalisme et une activité de production de savon, et il ne restera plus que l'activité de production de savon après.
Et, n'empêche que... Il en ressort donc de l'opinion publique à l'époque que Louis-Napoléon Bonaparte est vu comme, je cite, un brave type qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Alors même si c'est pas beaucoup, c'est quelque chose.
Mais dans le système de notation des présidents, il obtient 3 bonnets phrygiens sur 6, ce qui est une note parfaitement moyenne. À la mesure de son mandat.
Et qui a été battu par peu de présidents encore aujourd'hui, peut-être Pompidou. Non,
c'est vrai, Pompidou avait 3 bonnets et demi.
Trois bonnets phrygiens sur 6 pour Louis-Napoléon Bonaparte, ce sera le mot de la fin. Merci à notre équipe d'historiens, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode que j'aurais consacré à la première élection au suffrage universel en France, à l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Vous retrouvez l'émission sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas d'y noter le podcast avec 5 petites étoiles. Vous nous retrouvez également sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau pan de l'Histoire, l'Histoire avec un grand I.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.